Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 13h ici à Paris.
RFI midi.
RFI Midi se poursuit tout de suite avec le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Florent Guignard.
Bonjour Anne Cantener et bonjour à toutes et à tous. À la une, 3 otages doivent sortir demain de la bande de Gaza en échange de la libération de 90 Palestiniens. Nous serons dans un instant en direct avec notre envoyé spécial à Tel Aviv. Face à la guerre dans l'est de la RDC, la SADC organise aujourd'hui un sommet extraordinaire. Les pays d'Afrique australe qui ont déployé des troupes dans la région. Fumée blanche sur le conclave parlementaire en France. Députés et sénateurs viennent tout juste de trouver un accord sur le projet de budget. Et puis avant le journal des sports, on parlera des transferts dans le foot. Il n'y en a jamais eu autant l'an dernier.
RFI Midi.
Une nouvelle phase d'échange d'Israéliens et de Palestiniens va avoir lieu demain.
Oui, après une opération un peu chaotique hier, après la libération de 8 otages de la bande de Gaza, avant que le gouvernement israélien ne suspende quelques heures la libération de 110 Palestiniens. Demain, donc, ce seront 90 Palestiniens qui devraient sortir de prison. En échange de la libération de 3 otages, le Hamas a donné leur nom tout à l'heure et on retrouve en direct de Tel Aviv notre envoyé spécial Muriel Paradon. Muriel, parmi ces 3 otages, il y a le franco-israélien Ofer Calderon.
Oui, Ofer Calderon, 54 ans, enlevé le 7 octobre 2023 au kibboutz Nir Oz avec ses 2 enfants, Erez et Sahar, âgés de 12 et 16 ans, qui, eux, ont été libérés en novembre 2023 lors de la première trêve entre Israël et le Hamas. Ils vont donc tous pouvoir être réunis à nouveau. Nous avons pu joindre ce matin au téléphone Yishai Dan, l'oncle de l'ex-femme d'Ofer Calderon. Il se réjouit de la nouvelle.
Mon cœur bat, je sais pas, 200 coups par seconde. J'ai peur d'être déçu, mais je ne pense pas à ça. C'est la première fois que je me permets d'être pas réaliste, mais optimiste. Je ne sais pas comment je vais passer ces heures-là, mais je suis très ému, très ému.
Ému donc, l'oncle d'Ofer Calderon, qui sera libéré demain en même temps que l'israélo-américain Keith Siegel, 65 ans, qui lui va retrouver sa femme, ex-otage libérée lors de la première trêve, et puis Yarden Bibas, 35 ans, dont le nom de famille est devenu un symbole ici en Israël. C'est le père des 2 enfants Bibas, dont un bébé, enlevé également le 7 octobre avec leur mère. Le Hamas les a donnés pour morts dans un bombardement de l'armée israélienne au début de la guerre, mais l'information n'a jamais été confirmée par Israël.
Muriel Paradon, en direct de Tel Aviv avec Nicolas Benita.
Le Hamas, par ailleurs, a officiellement annoncé hier la mort de son chef, Mohamed Deif.
Alors qu'Israël avait annoncé son élimination il y a déjà plus de 6 mois, pourquoi donc le Hamas a-t-il choisi de garder cette information secrète jusqu'à hier? Explication de Ahmed Koussaï, spécialiste du Hamas.
Hamas annonçait la mort de Mohamed Deif en pleine guerre aurait sans doute eu un impact sur ses propres combattants. L'annonce de cette mort aurait affecté le moral des troupes. Donc ce n'était pas possible de reconnaître la disparition du leader. La chaîne de commandement aurait aussi été affectée et avec elle les ordres pour la poursuite des opérations militaires du Hamas. Et il y a aussi une autre raison. Le Hamas ne souhaitait pas que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou crie victoire et tire profit en pleine guerre de cette situation. En s'attribuant le mérite d'avoir tué Mohamed Deif.
By saying that he killed Mohamed Deif.
Ahmed Koussaï au micro de Sami Boukhelifa, notre correspondant à Jérusalem. 2 autres informations dans la région. Avec la mort de 2 personnes cette nuit au Liban, dans l'est du pays, dans une frappe israélienne, et cela malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis fin novembre. 10 autres personnes ont aussi été blessées. Israël affirme avoir visé des cibles du Hezbollah. Et puis les États-Unis ont annoncé l'élimination en Syrie d'un chef djihadiste lors d'une frappe menée hier. Il s'agit du responsable de l'organisation Ouras al-Din, affilié à Al-Qaïda.
Cela fait 1000 jours aujourd'hui que la Française Cécile Kohler est détenue arbitrairement en Iran.
Cécile Kohler, qui a 40 ans, avait été arrêtée en 2022, accusée d'espionnage alors qu'elle faisait du tourisme dans le pays. 1000 jours au fond du trou, comme en témoigne sa sœur, Noémie Kohler, qui a pu avoir de ses nouvelles il y a quelques jours.
On sent qu'elle va de plus en plus mal. On sent que c'est de plus en plus difficile pour elle d'imaginer qu'elle va pouvoir sortir un jour, parce que ses geôliers ont aussi joué avec son espoir en lui faisant croire qu'elle allait sortir, en lui donnant des échéances, de fausses échéances. Notamment, la dernière fois, on lui a dit qu'elle allait être libérée avant son anniversaire, le 25 septembre. Or, elle n'a pas été libérée. Donc, je pense que c'est des choses aussi qui pèsent énormément sur son moral, qui la brisent. Elle va plus tenir longtemps, en fait. C'est plus une question de mois, là, c'est une question de semaines, voire une question de jours. Il faut absolument la sortir de là le plus rapidement possible.
Noémie Kohler, la sœur de Cécile Kohler. Témoignage recueilli par Pierre-Olivier.
La diplomatie face à la guerre dans l'est du Congo-Kinshasa.
Avec un sommet extraordinaire de la SADC, la communauté des États d'Afrique australe, qui a déployé dans la région une force composée de soldats d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi. Le président congolais, Félix Tshisekedi, devrait participer à ce sommet par visioconférence. Correspondance de Claire Bargelès.
L'agenda provisoire ne laisse pas filtrer grand-chose, mais l'hôte zimbabwéen a confirmé que l'ordre du jour sera dévolu au débat autour de l'engagement de la communauté dans l'est de la RDC. Car les chefs d'État doivent décider quelle suite donner au déploiement de la SAMIDRC, pour l'instant prévu jusqu'à la fin de l'année. Depuis le début de l'offensive du M23 sur Goma vendredi, l'Afrique du Sud, aussi présente sur place dans le cadre de la MONUSCO, compte déjà 13 morts du côté de ses soldats, et le Malawi 3. La situation est très difficile pour les troupes de la SADC retranchées dans les bases de Goma et de Sake, bien que peu d'informations soient communiquées sur leur état. Kigali accuse ce déploiement de ne pas être une force de maintien de la paix et de travailler aux côtés de groupes génocidaires armés comme le FDLR. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères a toutefois indiqué hier soir avoir pu s'entretenir avec son homologue rwandais et affirme que les deux pays sont engagés à faire avancer le dialogue dans l'optique d'un possible cessez-le-feu. La communauté d'Afrique de l'Est souhaite pour sa part organiser un sommet conjoint urgent avec la SADC d'ici les prochains jours. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Une page s'est tournée au Tchad.
Une page française avec la récupération ce matin de la base militaire historique de N'Djamena, récupération par le Tchad, avec une cérémonie en présence du président Déby qui a déclaré « Nous ne rompons pas notre relation avec la France ». Mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération.
Les suites de la collision entre un hélicoptère de l'armée et un avion de ligne à Washington aux États-Unis.
Et pas de bonnes nouvelles, il n'y a aucun survivant. Les recherches se poursuivent pour récupérer dans les eaux glacées du fleuve Potomac les corps. Il y avait en tout 67 personnes à bord des deux appareils. Les boîtes noires de l'avion ont été repêchés. Les premiers éléments de l'enquête, Nicolas Roca, pointent un problème d'effectif.
Oui, un document interne de l'administration fédérale de l'aviation, consulté par le New York Times, assure que les effectifs de la tour de contrôle étaient inhabituels pour l'heure de la journée et le volume du trafic. Le contrôleur aérien chargé des hélicoptères donnait aussi des instructions aux avions qui décollaient ou atterrissaient. Des tâches normalement effectuées par deux personnes, car les fréquences radio utilisées pour communiquer sont parfois différentes. Une information loin d'être anodine, alors que l'hélicoptère avait dévié de sa trajectoire et n'a pas été suffisamment bien dirigé pour éviter l'avion. Des enregistrements audio permettent d'entendre clairement le contrôleur demander à l'hélicoptère de passer derrière l'appareil quelques secondes avant l'explosion. Les problèmes de sous-effectifs dans les tours de contrôle aériennes américaines semblent structurels. 25 contrôleurs aériens seulement étaient affectés à la tour de l'aéroport Ronald Reagan, où s'est déroulée la catastrophe selon l'administration fédérale de l'aviation, bien en dessous des 30 recommandés. Les deux boîtes noires ont été retrouvées et sont en train d'être analysées. L'agence américaine chargée de la sécurité des transports doit publier un rapport préliminaire dans les 30 prochains jours.
Nicolas Roca du service international de RFI.
Un mois et demi après le passage du cyclone Chido à Mayotte, la facture s'annonce lourde.
Oui, le coût de la reconstruction devrait dépasser le milliard d'euros, selon une estimation du ministre français des Outre-mer, Manuel Valls, qui affirme que l'État sera au rendez-vous malgré l'état des finances publiques.
Et malgré l'absence de budget pour 2025.
Ouais, le vote du budget pourrait avoir lieu lundi. Et bonne nouvelle, en provenance de l'Assemblée nationale où depuis hier était réunie la commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 députés et 7 sénateurs rassemblés dans une pièce à huis clos pour pour arriver à un compromis sur le projet de budget 2025. On retrouve tout de suite en direct de l'Assemblée nationale Charlotte Turien, Thomas K. Bonne nouvelle Charlotte, donc, puisqu'un compromis a été trouvé.
Oui, tout à fait. Une CMP donc qui est conclusive et qui vient de s'achever il y a quelques minutes. Alors pour rappel, cette sorte de conclave avait débuté hier matin à 9h avec une interruption hier soir et une reprise des travaux ce matin. Ont donc été adoptés dans le texte issu de cette commission un sauvetage de postes dans l'éducation nationale et à Pôle emploi, le non des remboursements de certains médicaments, quelques victoires donc pour le Parti socialiste qui réclamait tout cela et qui a aussi remporté une autre manche sur l'aide médicale d'État en adoptant la suppression de l'article 65 de l'aide médicale d'État qui posait des conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide. Mais la Commission a également adopté une baisse des crédits consacrés à cette aide médicale d'État de 111 millions d'euros par rapport au projet de budget initial sur 1,3 milliard d'euros. Deux propositions s'affrontaient, celle du sénateur LR Jean-François Husson qui proposait une baisse de 200 millions d'euros et celle du député Renaissance David Daniel qui a donc été adopté pour 111 millions d'euros de baisse de crédits, soit le maintien des crédits de 2024. Et après cette CMP, évidemment, les réactions politiques sont nombreuses ici à l'Assemblée. Les députés PS vont donc maintenant rendre compte à leur direction des avancées obtenues lors de cette CMP. L'idée, c'est bien sûr de savoir si les socialistes voteront la censure la semaine prochaine, probablement avec la France insoumise. Les insoumis, eux, qui appellent évidemment les socialistes à voter cette censure et à ne pas s'éloigner d'eux. Prochaine étape donc lundi, dans l'hémicycle, où le texte issu de cette commission mixte paritaire sera présenté aux députés, soit pour un vote, mais selon toute vraisemblance, c'est à cette occasion que le Premier ministre François Bayrou devrait donc déclencher son premier article 49.3 pour faire adopter ce budget 2025 sans vote.
Charles Turien, Thomas K en direct de l'Assemblée nationale.
La culture libère les âmes.
Et les corps. Un détenu a profité d'une sortie organisée au Musée de l'Homme à Paris pour s'évader. À l'heure actuelle, il est toujours recherché. Le parquet s'était opposé d'ailleurs à ce qu'il participe à cette sortie culturelle en compagnie de 5 autres détenus.
De nouveaux billets bientôt en circulation dans la zone euro.
Oui, c'est la Banque Centrale Européenne qui vient de les révéler. Des billets illustrés par quelques figures culturelles et scientifiques européennes. Léonard de Vinci, Cervantes, Marie Curie, Maria Callas, mais il y aura aussi sur ces nouveaux billets des fleuves et des oiseaux comme le martin pêcheur et ses ailes bleues turquoises ou encore le tichodrome échelette. Voilà, vous l'entendez, c'est un oiseau gris aux ailes rouges qui vole comme un papillon. Le tichodrome échelette au micro de Stanislas Rosa.
On continue de parler gros sous, mais dans le foot.
Avec le bilan des transferts des joueurs, un bilan établi par la FIFA, la Fédération Internationale de Football. Eh bien, des transferts, il n'y en a jamais eu autant. Plus de 78 000 joueurs échangés. Et plus de transferts, Nicolas Feldman, ça veut dire aussi plus d'argent dépensé par les clubs.
Oui, alors on est encore loin du record de 2023, mais 2024 reste à ce jour la deuxième année où les clubs auront le plus dépensé d'argent, 8 milliards d'euros au total. Tout en haut de ce classement, on trouve un club français, le Paris Saint-Germain. La FIFA ne communique pas les montants engagés, mais les gros transferts de 2024, ils sont connus à Paris. On peut citer l'arrivée du Rennais Désiré Doué, 50 millions d'euros, ou encore celle du Portugais João Neves pour 60 millions d'euros. Juste derrière le PSG, Manchester United et l'Olympique Lyonnais complètent ce podium. Et si on regarde cette fois à l'échelle d'un pays, sans surprise, ce sont les clubs anglais qui dépensent le plus en 2024, avec tout de même quelques exceptions, puisque Manchester City, d'habitude très actif sur le marché des transferts, ne figure même pas dans le top 20 des clubs européens.
Nicolas Feldman, et avant de retrouver dans un instant Anne, le journal des sports, une dernière histoire qui nous vient de Russie avec le très long voyage d'un homme à bord d'un canot gonflable dans l'extrême-orient russe. Il a survécu à 66 jours de dérive en récupérant de l'eau de pluie. Il avait pour se protéger un sac de couchage en poil de chameau. Il était en compagnie de 2 autres personnes qui, elles, n'ont pas survécu. Le survivant, lui, qui pesait 100 kilos hein, au départ, il n'en pesait plus que 50 kilos. Quand il a été secouru, manque de bol pour lui, on va dire. Hein. Il a été inculpé à l'arrivée par la police. Il a été inculpé pour violation des règles de sécurité. Il est presque 13h15 à Paris. C'est la fin de ce journal, mais RFI Midi continue avec vous, Anne Cantenaire.
Merci, Florent Guignard. On va parler tout de suite de l'actualité sportive. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Anne.
On va commencer par du football sur le terrain cette fois-ci. Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions a donné un choc entre ténors. Manchester City, Real Madrid.
Énorme, ça ressemble à une affiche de rêve pour une finale, hein, mais ce sera bien un duel pour la survie du tenant du titre et club le plus couronné de la compétition, ou de son prédécesseur. Côté français, trois clubs étaient concernés, Lille étant déjà en huitième de finale. Le Paris Saint-Germain savait déjà que son adversaire était un autre club de Ligue 1. Eh bien, ce sera finalement Brest, ironie du calendrier d'ailleurs, ils s'affronteront demain en championnat. Monaco, pour sa part, affrontera le Benfica à Lisbonne. Les autres matchs, Bayern Munich contre Celtic Glasgow, Juventus Turin contre le PSV Eindhoven, Milan AC contre Feyenoord Rotterdam, Borussia Dortmund contre le Sporting Portugal et Atalanta Bergame contre les Belges de Bruges. Rendez-vous pour tous ces matchs les 11 et 12 février pour l'aller et les 18 et 19 pour le retour.
L'actualité foot, c'est aussi le début de la 20e journée de Ligue 1 en France. Montpellier reçoit Lens.
Des Héraultais en pleine opération sauvetage. De même, puisqu'ils sont 17e et donc relégables, ils se sont donné un petit peu d'air ces deux derniers week-ends en battant Monaco et Toulouse, et ils espèrent maintenant s'en tirer définitivement grâce à un revenant. Andy Delors, l'attaquant algérien de 33 ans, arrive du Mouloudia d'Alger. Il avait déjà passé 3 ans à Montpellier de 2018 à 2021. Son départ à l'époque avait été mal vécu par les supporters, mais il est prêt à reprendre le cours d'une histoire inachevée.
Je sentais que l'histoire n'était pas finie avec le club. Ça n'a pas pu se faire cet été. C'est vrai que je me voyais mal à distance voir le club comme ça et pas être dedans pour les aider, pour apporter quelque chose au club. Et j'avais pas mal de regrets sur la fin de mon histoire avec ce club. Et ça me tenait à cœur de revenir et bien terminer mon histoire avec ce club. Je me sens bien déjà mentalement d'être là. La situation du club me faisait mal. Et je ne suis pas un sauveur, je ne suis pas l'héros de la situation. Je vais essayer d'apporter, de mettre mes buts, de faire mes passes décisives aussi. Et surtout, sauver ce club, c'est ma priorité.
Andy Delors avant Montpellier-Lens, 19h45, temps universel. Paulo Fonseca, entraîneur de Lyon, c'est officiel depuis ce matin. Le Portugais remplace Pierre Sage, il a signé jusqu'en 2027. Autre arrivée sur un banc, celle d'Habib Bey à Rennes, l'ex-international sénégalais qui prend la suite de Jorge Sampaoli, qui n'aura fait qu'un passage éclair et il est vrai peu fructueux en Bretagne, 10 matchs, 7 défaites.
Autre terrain, autre ballon, le tournoi destination de rugby démarre ce soir avec un 15 de France face au Pays de Galles et aux ambitions très affirmées.
Le Grand Chelem et rien d'autre, ça n'est plus arrivé depuis 2022 et ça manque aux Bleus, sorti d'une tournée d'automne réussie. Cette première étape face aux Gallois, dernier de l'édition 2024, est plombée par une série de 11 défaites d'affilée, s'annonce a priori plutôt abordable, mais pas question, comme d'habitude, de donner dans l'excès de confiance d'entrée. Tempère, le capitaine champion olympique à 7 est de retour à 15, Antoine Dupont.
J'ose espérer qu'on a l'expérience aujourd'hui de ne pas se dire qu'on peut se relâcher parce qu'une équipe est sur une série de défaites. Tous les ans, il y a des surprises dans ce tournoi et on n'a pas envie de figurer dedans. On sait qu'une équipe qui est en difficulté, elle peut toujours retrouver une énergie supplémentaire qu'elle n'avait pas avant et retourner une dynamique sur un fait de jeu, sur un match. Ils ont rentré des joueurs en plus d'expérience qui connaissent très bien ce tournoi et ces matchs internationaux, donc il faut qu'on reste très vigilant.
Antoine Dupont avec Babacar Diarra au Stade de France ce soir, France-Galles, 20h15, temps universel.
Merci Christophe Diremzian. L'actualité sportive est aussi sur internet rfi.fr.
RFI Midi, Anne Cantner.
C'était il y a 5 ans, l'épidémie avait mis le monde à l'arrêt en quelques semaines après l'apparition d'un mystérieux virus en Chine. L'OMS avait classé le 30 janvier 2020 l'épidémie naissante de Covid comme une urgence de santé publique internationale. Difficile d'imaginer à ce moment-là ce qui allait se produire juste après. Confinement dans des pays entiers et la planète submergée par les malades et les morts. En France, depuis 5 ans, c'est l'impréparation du gouvernement qui fait polémique. Les journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davet signent un livre sur le sujet avec des révélations. Il s'appelle « Les juges et l'assassin » et les auteurs en parlent au micro d'Arnaud Pontus. Ils expliquent d'abord pourquoi, selon eux, cette crise était prévisible et même prévue.
Eh bien, ce qui nous permet de dire cela, c'est on va dire, la consultation par nos soins de dizaines de rapports, de notes, de documents divers qui ont été transmis aux autorités politiques dans les années 2010 jusqu'au début des années 2020, donc jusqu'au surgissement du Covid. Et tous ces rapports et tous ces documents mettaient en garde, alertaient l'exécutif sur le fait qu'une pandémie mondiale était plus que probable, était inéluctable, et que surtout, pour y faire face, il fallait s'organiser et prévoir notamment des équipements de protection, parmi lesquels les fameux masques, on en reparlera sans doute. Or, il se trouve que ces rapports, ces notes, ces alertes n'ont absolument pas été pris au sérieux, et au contraire, on a laissé péricliter les équipements de protection dont les Français avaient tant besoin quand la crise a surgi.
Qui a ignoré ces alertes? Et c'est 51 rapports, parce que vous les avez comptés. Hein.
51 rapports, tout à fait, en l'espace de 20 ans au maximum. Qui l'a ignoré? Mais déjà, en premier lieu, ce sont les autorités politiques. Ça, pour nous, c'est important. C'est un livre politique aussi qu'on a fait, parce qu'on rentre au cœur de la machinerie politique, de la machinerie administrative. Et entre les deux, il n'y a pas toujours de connexion. Et là, on a été vraiment jusqu'au bout des choses pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer. Clairement, les avertissements des scientifiques et autres parlementaires n'ont pas été pris en compte par les autorités politiques, en particulier par Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Agnès Buzyn, ce qui explique l'enquête de la CGR les concernant. Et par ailleurs, non seulement ça n'a pas été pris en compte, mais ces mêmes responsables ont laissé l'appareil sanitaire péricliter durant ces 3 années de pouvoir.
Alors, et c'est comme ça que quand le virus arrive en France, en janvier 2020, on se rend compte qu'on manque très cruellement de masques.
Oui, alors nous publions une série d'échanges par mail ou par SMS entre les responsables de l'exécutif et soit entre eux, soit avec leur administration, notamment le ministère de la Santé et la Direction Générale de la Santé, qui est le bras armé du ministère. Et on s'aperçoit, avec le recul, quand on a lu ça, on était un petit peu hallucinés, on s'aperçoit qu'en fait, tout le monde découvre que, d'abord, il aurait fallu avoir des masques.
Oui, qu'il y avait un stock qui était prévu.
Exactement, que initialement, on va dire 10 ans auparavant, il y avait un stock de masques qui dépassait les 2 milliards. Tous les experts disaient, et ça encore une fois on le prouve rapport à la clé, qu'il fallait au moins en avoir 1 milliard, donc on était largement pourvu. Oui, mais sauf que quand la crise éclate, on n'en a plus que quelques dizaines de millions. C'est totalement ridicule. Le stock a totalement fondu. Et s'ajoute à ça que dans le stock, une partie des masques sont périmés et que d'autres qui sont éventuellement périmés mais qui sont en fait utilisables sont détruits, passent à la broyeuse alors que les Français en manquent terriblement. C'est assez stupéfiant.
Et comment on passe d'une doctrine qui voudrait qu'on ait, que la France ait 2 milliards de masques en stock à 60 millions à peine et encore pas tous valables? Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe simplement que l'appareillage politique a fauté. Alors on parle des masques, mais il y a bien plus grave que les masques. Il y a la déconnexion de l'appareillage politique. C'est-à-dire que ce soit Agnès Buzyn, que ce soit...
Qui était ministre de la Santé.
Tout à fait. Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Édouard Philippe Premier ministre à l'époque, Emmanuel Macron président. Ces gens-là n'ont rien fait de ce qu'il fallait faire au tout début de la crise. Je parle par exemple de la prise en compte déjà de cette crise. Elle arrive assez rapidement, puisque Agnès Buzyn fait un peu...
Alerte.
Fait la lanceuse d'alerte, oui. Tout à fait. Elle arrive très rapidement sur le bureau d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, c'est-à-dire tout début janvier 2020. Eh bien, il va falloir attendre le 17 mars pour que Edouard Philippe lance ce qu'on appelle une cellule interministérielle de crise qui permette de gérer de manière interministérielle, en mobilisant l'armée et autres, pour gérer cette crise. Et tout a été comme ça.
Le stock de masques mal géré, voire pas géré du tout, abandonné, et la prise en compte politique oubliée en cours de route.
Mais ça, c'est gravissime.
Vous parliez d'Agnès Buzyn, qui dit à son Premier ministre, vous êtes en dehors de la plaque. Je ne perds pas mes nerfs, je suis lucide. C'est un échange de textos. Hein. Derrière vos décisions, ce sont des gens qui vont mourir, lui écrit-elle.
C'est un texto qui est assez fort, évidemment, et surtout qui prouve bien que il y a un véritable lien, c'était l'objet de l'enquête judiciaire d'ailleurs, entre le manque d'équipement, la désorganisation aussi qu'on raconte en long, en large et en travers, et la vie des gens, en fait. C'est parce qu'on parle de ça concrètement, hein. Nous, depuis la sortie du livre, on a eu un nombre assez important, c'est le moins qu'on puisse dire, de messages de personnes qu'on ne connaît pas forcément, de scientifiques, de médecins, de simples citoyens qui nous disent qui ont les larmes aux yeux pour nous expliquer que, par exemple, leur mari, qui était médecin de haut niveau, est mort parce qu'il ne pouvait pas se protéger.
Oui, ce sont vos premiers mots dans le livre, hein, pour ces 170 000 morts en France.
Exactement. Et derrière ça, il n'y a aucune démagogie de notre part. C'est vraiment... c'est pas du tout le évidemment
vous cherchez à comprendre.
L'enjeu du livre. Oui, c'est si un livre d'intérêt public, une enquête d'intérêt public, c'est bien celle-là parce que ça concerne en fait chaque citoyen véritablement.
Gérard Davé, Fabrice Lhomme, est-ce que vous n'êtes pas exagérément sévère? On se souvient aussi combien la gestion de la crise dans les autres pays européens a été chaotique.
32 000 morts en 6 mois. C'est vraiment une catastrophe. L'indice de mortalité français s'est décuplé bien plus que dans d'autres pays. Alors oui, l'Angleterre a failli. Mmh. Oui, les USA ont failli. Oui, le Brésil a plus que failli. Mais nous sommes la France, nous avions un appareillage sanitaire et un appareillage de santé publique qui était remarquable et qui était considéré comme tel par l'OMS. Eh bien, nous, pendant 6 mois, on a vraiment manqué de tout, d'organisation, de masques, de respirateurs, de détecteurs de température dans les aéroports. Et ce qu'on produit dans ce livre, c'est justement l'épreuve de ce double discours. C'est-à-dire que le plus grave que ce manque d'organisation, c'est que les politiques en place ont eu connaissance et on se sont rendu compte que ça n'allait pas et ne l'ont pas dit. C'est-à-dire qu'ils ont fait un double discours qui est absolument ahurissant.
Oui, notamment sur les masques, on cache la pénurie en disant « mais vous n'en avez pas besoin ».
Au public, on dit « voilà, exactement ce que vous venez de dire ». Et en fait, en interne, et là on produit les échanges de SMS ou de coups de téléphone et autres, et de mails saisis par les juges, qui montrent qu'ils étaient très conscients de ce qui n'allait pas et qu'il ne fallait pas le dire, tout simplement.
Ouais. La base de votre enquête, c'est le dossier de la Cour de justice de la République. Est-ce qu'il peut y avoir des condamnations?
Alors, a priori, il n'y aura sans doute pas de condamnation dans le volet ministériel, hein, celui auquel on s'est le plus intéressé et celui qui regorge, encore une fois, d'informations très importantes, à notre avis. Il reste aux juges à décider ce qu'ils font à la fin de leur enquête. Mmh. Mais à partir du moment où il n'y a plus personne de mise en examen dans cette affaire, il est peu probable que cette affaire se termine au tribunal. Il n'y aura sans doute jamais de procès. Et donc, d'où l'utilité aussi de ce livre, c'est pour mettre sur la place publique des choses qui ne se traduiront pas forcément judiciairement, mais qui doivent nourrir le débat public.
Les journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davé au micro d'Arnaud Pontus, auteur de Les juges et l'assassin, une enquête donc sur la manière dont le gouvernement français a géré l'épidémie de Covid il y a 5 ans.
RFI Midi.
Reportage en Irak, dans la région du Kurdistan, où l'on s'interroge beaucoup sur la place qui sera réservée à la communauté dans la nouvelle Syrie. Les Kurdes syriens sont 300 000 à vivre de ce côté de la frontière et la question de l'autonomie n'est pas claire du tout pour le moment. Reportage dans le camp de réfugiés de Kawerghosk de notre correspondant Lucas Lazo.
Ayaz, 29 ans, fait défiler les pages d'un album qu'il garde précieusement au fond d'une armoire.
Ce sont nos photos de famille. Ces albums sont les souvenirs qui nous restent de la Syrie et que nous avons pu emporter avec nous. C'est la seule chose qui nous relie à la Syrie. Avec la guerre, il y avait deux options, devenir un meurtrier ou bien se faire tuer. Donc j'ai pris la meilleure décision, en tout cas la plus sûre, celle de quitter la Syrie.
Son exode le conduit de l'autre côté de la frontière, dans le camp de Kawerghosk, au Kurdistan irakien. 10 ans ont passé et les tentes de plastique ont ici laissé place à des maisons de parpaings. Si les 1800 familles kurdes syriennes qui vivent là ont célébré la chute du régime de Bachar el-Assad le 8 décembre dernier, aucune ne s'est empressée de prendre le chemin du retour.
Bien sûr que je veux rentrer, nous n'allons pas rester ici, mais pour l'instant la situation est trop mauvaise en Syrie. Je ne veux y retourner que si l'on construit un état civil et décentralisé qui protège les droits de toutes les communautés syriennes, c'est-à-dire des Kurdes et de toutes les autres minorités. Il faut une protection constitutionnelle de nos droits, qui ne soit pas seulement des mots, mais qui se traduise par des faits.
Ces attentes sont largement partagées par ces réfugiés. Mais pour les faire entendre aux nouvelles autorités à Damas, les factions politiques kurdes doivent afficher un front uni. Or, les habitants du camp ne se sentent pas représentés par les milices au pouvoir au Kurdistan syrien, réputé proche du Parti des travailleurs du Kurdistan en guerre contre la Turquie. Accoudé à son échoppe de vêtements, Alan Walid a justement quitté la Syrie à 14 ans, de peur d'être enrôlé contre son gré.
Dans les régions kurdes de Syrie, le parti politique en charge opère un recrutement forcé. Mais nous ne souhaitons pas nous battre pour un parti politique ou une idéologie. Nous souhaitons nous battre pour les Kurdes. Si les partis parviennent à s'unir, alors nous rentrerons nous battre pour la cause kurde, pour le Rojava.
Depuis plusieurs jours, les promesses de discussion vont bon train entre ces milices qui administrent le Kurdistan syrien et l'opposition principalement exilée en Irak. Cependant, pour Muntana, croisé dans l'allée principale du camp, ces négociations négociations ne suffiront pas à la faire rentrer chez elle.
Si nous retournons en Syrie, nous n'aurons plus rien. Nous finirons à la rue. Ici, au moins, nous possédons une maison, nous vivons au jour le jour. Je sais qu'il faudra encore 10 ans à la Syrie pour se reconstruire et revenir à la situation antérieure à la guerre. Et peut-être même que ça n'arrivera jamais.
Au-delà de ces tractations politiques fragiles, les bombardements turcs et les combats entre les forces kurdes syriennes et les mercenaires soutenus par la Turquie se poursuivent. La situation sécuritaire reste trop instable pour permettre aux réfugiés de Kawergosk d'envisager un retour. Lucas Lazo, Erbil, RFI.
Un reportage à retrouver comme toutes nos informations sur l'application RFI Pure Radio. Restez avec nous dans un instant maintenant, l'actualité africaine. A tout de suite.